Jean-Claude, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a amené à devenir chercheur?
Parce que c'est à la fois naturel, c'est une démarche où on n'a pas l'impression qu'on a suivi un plan préétabli, mais ça fait appel à des volontés que l'on a en soi, des souhaits, des désirs, des motivations, des rêves. J'ai été formé comme un ingénieur. J'ai eu un diplôme d'ingénieur et donc je devais logiquement travailler dans une entreprise, dans une usine. Mais en fait, les quelques stages que j'ai effectués en entreprise m'ont tout de suite fait apparaître le fait qu'il fallait que je fasse autre chose et quelque chose qui soit très lié à l'environnement. L'espace dans lequel je vis, mais l'espace au sens très large, c'est-à-dire j'aurais très bien pu faire de l'astronomie, de la cosmologie ou de la géologie. J'adore tous les problèmes qui sont liés à la Terre, aux planètes, au cosmos. La tectonique des plaques, c'est quelque chose qui me fascine, la volcanologie. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai saisi la première opportunité qui s'est présentée et qui m'a conduit à m'intéresser à l'océan au tout début de ma carrière. Et je n'ai ensuite jamais changé d'activité toute ma vie. Donc j'ai mené la carrière de chercheur au CNRS depuis l'origine de mon activité professionnelle. Voilà ce que je peux dire au niveau de mon métier de chercheur. Oui, aussi, une chose que j'ai réalisé ça beaucoup plus tard, c'est que j'ai une propension naturelle à accepter de vivre dans un peu dans l'inconnu en permanence, c'est-à-dire à la recherche ou à la découverte de choses qu'on ne sait pas a priori ou que l'on comprend mal. Mais on sent que ça fait partie un peu de notre système, la vie sur Terre, enfin la place de l'homme au milieu de l'univers, et donc voilà, cet aspect de l'inconnu m'a plutôt fasciné que effrayé. Parce que ça effraie un certain nombre de gens, et ça je m'en suis rendu compte plus tard. Dans la vie d'adulte, de chercheur adulte, c'est que quelquefois les gens se crispent à l'idée de rentrer dans un espace inconnu qui fait partie aussi de leur vie, quoi.
Et voilà. Pourquoi t'intéresses-tu particulièrement à l'Arctique dans tes travaux?
Alors l'Arctique, ça a été aussi alors là, c'est pas une opportunité, ça a été une suite logique aux premières activités de chercheur qui m'ont conduit vers la Méditerranée pour étudier un problème qu'on appelle la convection profonde, c'est-à-dire la capacité des océans à renouveler leur masse d'eau en profondeur, donc à partir de phénomènes qui se développent en surface. Donc j'ai étudié cette convection profonde en Méditerranée, au sud de Marseille, au sud de Nice, Méditerranée occidentale, nord-occidentale. Et il se trouve que ce phénomène de convection profonde est un phénomène très connu des régions polaires, des océans polaires, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc après la Méditerranée, où j'ai fait ma thèse donc sur ce sujet, il était normal d'aller voir ailleurs et haute latitude si les choses se passaient bien telles qu'on l'avait analysé à partir des observations conduites en Méditerranée. Donc ensuite j'étais en mer du Labrador après la Méditerranée, donc c'était à la fin des années 70. Et puis la décennie suivante, présente, on est monté en mer du Groenland, et au milieu des années 80, je me suis posé sur la glace pour la première fois dans le détroit de Fram, entre le Svalbard et le Groenland, une mission internationale de grande ampleur qui s'appelait MISEX en 1983 et 1984, Polar Stern, le grand brise-glace de recherche scientifique allemand, venait juste d'être inauguré. Et donc j'ai fait mes premières missions sur la glace avec le Polar Stern dans le détroit de Fram, dans le milieu des années 80. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus lâché la glace. J'y suis resté pas forcément tous les ans, mais presque. Et pour avancer de plus en plus dans l'Arctique central, bien au-delà du pôle Nord, puisque l'Arctique n'est pas tout à fait centré sur le pôle Nord, mais qu'il y a un grand espace qui va au-delà. Et donc voilà, donc c'est la Méditerranée qui m'a conduit vers l'Arctique.
Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement quand tu es à bord de Tara? En quoi Tara est particulier?
Eh bien, Tara a été construit spécifiquement pour accomplir une dérive transpolaire, comme l'avait fait, avec des moyens un peu différents, Fridtjof Nansen, le grand explorateur norvégien à la fin des années 1800, entre 1893 et 1896. Fridtjof Nansen est parti avec un bateau qui s'appelait le Fram, et pour essayer de découvrir ce qu'il y avait dans les régions polaires nord de l'hémisphère nord de la Terre, parce qu'on ne savait pas du tout si le pôle Nord c'était un océan ou un continent ou une île, comme l'Antarctique en fait. Donc Nansen ne savait pas, donc il est parti avec le Fram pour essayer de découvrir cela. Et son expédition a duré 3 ans. Il n'a pas été au pôle Nord, mais il s'en est quand même pas mal approché pour finalement découvrir que l'hémisphère Nord était la région polaire de l'hémisphère Nord, c'était bien un océan. Et donc, nous, avec Tara, plus de 100 ans après Fridtjof Nansen, on n'avait pas à découvrir si le pôle Nord était un océan ou un continent, mais on avait d'autres choses à découvrir. Et en fait, la goélette Tara a été construite pour faire une dérive arctique, une dérive transpolaire. Et c'est ça qui m'a fasciné avec ce bateau.